Mais, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Ça approche. Où? Là, regarde. Là.
Je le vois.
Ah, mais c'est la rage.
Bonjour à tous et bienvenue sur la radio animation jeunesse, la RAJE, la radio portée par le service jeunesse sur le Val de l'Indre. Aujourd'hui, pour une petite heure de direct, je reçois la compagnie de l'Amarante. À la table, Thierry Chang-Chang, metteur en scène, écrivain, comédien et directeur artistique de la compagnie. Lauriane Caillot, agent de développement, et pour m'assister à la technique, Benjamin Jardet, animateur jeunesse sur la commune de Truyes. Bonjour à tous.
Bonjour.
Vous allez bien? Vous êtes bien installé?
Oui, très bien.
Parfait. Alors, on va pouvoir commencer. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un peu l'histoire de votre compagnie, comment les wagons sont arrivés, et puis quelles ont été les réactions des habitants, des élus. Voilà, je vous laisse la parole. Qui veut la prendre? Thierry, Lauriane?
Je vais prendre la parole.
Oui.
Alors, Thierry.
C'est quand même à l'origine.
Ben, en fait, au départ, j'avais créé une pièce qui s'appelait Le Garagiste, qui s'appelle d'ailleurs toujours Le Garagiste. Et j'avais eu beaucoup de difficultés à créer ce spectacle en France. J'arrivais pas à trouver de théâtre susceptible d'accepter et de recevoir ce type d'écriture. Voilà. Et donc, j'ai monté ce spectacle avec l'aide d'amis que j'avais rencontrés lors d'expatriation. J'ai monté ce spectacle en Écosse, voilà. Et quand je suis revenu en France, le spectacle a plutôt bien marché. Donc en fait, il faut aller monter les spectacles à l'étranger pour qu'ils fonctionnent bien en France après. Et puis j'avais auparavant été l'assistant de Robert Pinget, qui est l'un des pères de la littérature contemporaine. Et il disait toujours, ce qui est quand même un peu dramatique, c'est que je vais mourir, comme beaucoup d'autres auteurs d'aujourd'hui, et il n'y aura pas eu ou peu de tribune pour la parole d'aujourd'hui. Voilà. Alors, il est effectivement mort. Et pour lui rendre hommage, j'ai créé un spectacle avec Roger Dumas qui s'appelle Architruc, et l'une de ses pièces les plus glorieuses.
Pour situer un peu dans ta carrière, dans le temps, c'était il y a longtemps, c'était...
Il y a 11 ans, à peu près.
D'accord.
11-12 ans. Voilà. Et donc, je souhaitais créer un décor particulier, et donc j'avais envie de wagons. Voilà, parce que je suis aussi très amoureux de l'art brut, de ces gens qui créent et qui n'ont pas une conscience immédiate de création. Et donc voilà, l'idée est venue comme ça, de créer un décor que seraient les wagons. Alors au départ, ce décor devait mourir à la fin des représentations. On a joué 10 jours à Tours. Et puis là, il y a eu une élue qui arrivait de Chambray et qui a dit « c'est quand même tout de même dommage que ces wagons partent à la casse. Moi, je vous prends en résidence pour 3 ans ». Voilà. Et donc, on est parti en résidence sur 3 ans. On a commencé à devenir programmateur, alors que je ne connaissais pas du tout ce qu'était ce métier. Hein. C'est devenu un nouveau métier pour moi. Du coup, on a rencontré et multiplié les rencontres avec les artistes, donc des humoristes, des chanteurs, des comédiens. Et puis, à Chambray-les-Tours, c'était une mairie socialiste, qui est toujours socialiste. Mais à l'époque, il y avait une opposition de droite très vindicative, quoi. Et donc c'était assez compliqué de travailler parce que on était pris en otage, en fait. Voilà. Et on a décidé de partir. Et là, Daniel Ballanger, qui était donc maire à l'époque de Saint-Branc, a été emballé par le projet. Et donc il a dit, moi je veux les wagons sur ma commune et sur la communauté de communes du Val de l'Indre. Donc on a commencé à prospecter. Et puis, on est arrivé sur Saint-Branc. Alors, au début, les gens, c'est vrai qu'ils étaient un peu étonnés. Et je suis même sûr qu'ils n'appréciaient pas forcément l'avenue des wagons. Et puis, peu à peu, ils les ont apprivoisés à tel point que les wagons, c'est devenu une entité saint-branchoise. On ne dit plus que ce sont les wagons de la compagnie de la Marante, on dit souvent les wagons de Saint-Branc. Donc, les gens se sont appropriés ce lieu. Et voilà, c'est un lieu de culture en milieu semi-rural et c'est très bien.
Très bien. J'ai peut-être oublié, mais tu peux me rappeler quelle période c'était l'arrivée ?
Donc il y a 6 ans.
6 ans, voilà. D'accord. Donc les premières réactions tout de suite
Ça n'a pas été de l'hostilité, ça a été, de la curiosité. Hein, les gens n'étaient pas habitués. Bon, en plus, les wagons, c'est quelque chose de connoté, même même si moi, pour moi, il n'y a pas de, de connotation, mais il y a souvent, il y a eu pas mal de gens, notamment à la création, qui les ont associés à la déportation et tout. Bon, voilà, il y a eu ce genre de.
Ah oui, c'est fort quand même.
Ouais, il y a eu ce genre de polémique. Hein. Donc, quand on était installé à Tours, il y a eu ce genre de polémique.
Également là-bas.
Ouais.
Ah oui.
Alors que, voilà, c'est tout de même plus intelligent de créer un théâtre dans des wagons que de s'en servir pour déporter les gens. Du reste. Pour créer ce lieu, on a fait voter un amendement au Sénat via Marie-France Beaufils parce qu'il y avait un procès en cours entre la France et entre les États-Unis et la SNCF. Les États-Unis ont accusé la France d'actes de collaboration puisqu'ils louaient les wagons à l'État nazi pour déporter les gens. Donc tous les wagons de type utilitaire, obsolètes, étaient voués à la destruction. Donc nous, ce caractère exceptionnel pour exploiter les wagons et en faire un théâtre, on a dû demander une extension de la loi. Et si vous avez suivi l'actualité récente, là, justement, il y a eu le procès qui s'est déroulé aux États-Unis où les rescapés de la Shoah ont reçu de la part de l'État français et de la SNCF un dédommagement par rapport à cet acte de déportation.
Voilà. Oui, oui. D'accord. Du coup, toute une histoire qu'on connaissait absolument pas sur ces wagons. Moi, justement, je trouve au contraire que c'était une idée intéressante, quoi. Ça amène une scène assez nouvelle. Et puis même dans la commune, ça amène la curiosité. Et qui dit curiosité dit publicité. Et puis aussi un intérêt pour les gens qui habitent dans le coin, quoi.
Oui, mais bon, en fait, il y a quand même une image hein, qui est présente, qui est celle-là. Du reste, quand on a monté le projet, quand j'ai monté le projet, on en a parlé donc à pas mal de techniciens de la SNCF qui nous ont renvoyés à des musées, notamment dans le Nord, où il y avait des wagons qui avaient transporté justement des gens. Et quand les directeurs du musée ont eu vent de notre projet, ils nous ont proposé ses propres wagons en disant « Eh bien, mon Dieu, ce serait formidable que ces wagons existent sous la forme d'un théâtre, ça rendrait hommage à la mémoire de ces gens. » Voilà. Donc, il y a vraiment toute une histoire autour de ça qui est vraiment précieuse. Et il y avait des mouvements, je ne me rappelle plus exactement quel était... Eh bien, c'était justement pendant les élections au Chirac-Le Pen. On était à Tours et donc, justement, le Front National est venu nous taquiner justement avec ça... pendant les représentations, parce qu'ils estimaient qu'on récupérait une idée, qu'on jouait avec une idée, etc. Alors qu'au départ, ça n'était absolument pas ça. Moi, mon travail, c'est d'abord de créer, et puis c'était aussi de laisser dans la mémoire collective une œuvre d'art. Quoi. Parce qu'en fait, je considère que les wagons, c'est aussi comme une sculpture. C'est comme une sculpture, hein. C'est une œuvre à part entière. Elle peut exister sans rien.
Voilà. On parle des wagons, donc aujourd'hui il y a combien de wagons dans votre salle ?
Trois
wagons qu'il a fallu certainement ouvrir, coller, souder pour créer une salle qui permet d'accueillir combien de personnes ?
Alors, plus de 100 personnes,
ouais. Hein,
c'est gradiné, etc. Et en fait, pour exploiter, pour créer les wagons, donc il y a une équipe de formés. Cette équipe a dû suivre des stages dans le sein même de la SNCF, puisque bon, il y avait des intermittents et donc il y a des lois de sécurité particulières. On a dû acheter au franc symbolique, puisqu'à l'époque c'était le franc, une propriété privée au cœur même des locaux de la SNCF pour pouvoir travailler sur les wagons, parce qu'on n'avait pas le droit de travailler au sein même de la SNCF. En plus, le rail est secret défense. Donc voilà, il y avait toute une procédure juridique.
Secret défense.
Secret défense. Carrément. On n'a pas le droit de filmer le rail.
Ah bon ?
Voilà. Ensuite, les wagons étaient amiantés. Il a fallu les désamianter. Donc, comme on était en zone urbaine et que le chantier se trouve à l'extérieur, il a fallu créer des tunnels pour pouvoir les désamianter. Et il y avait un jeune homme, un jeune gars qui était là. Il a créé justement son entreprise grâce à nous. Il a désamianté au marteau-piqueur avec des scaphandres. Et donc, je crois qu'il a eu un marché assez conséquent à la suite de ce travail pour la SNCF.
Alors, on ne se rend pas compte de la difficulté que c'est de sortir finalement ces wagons du cursus SNCF pour arriver à les détourner en faire de spectacle.
Enfin, il y a des lois, il y a des règles de sécurité qui ne sont pas simplement nationales, qui sont aussi européennes. Hein. Donc, par exemple, toutes les marches là sont calquées selon des normes très précises. Et voilà, ces normes de sécurité, à partir du moment où on reçoit un public, il y a une réglementation et donc il faut se plier à cette réglementation.
Et alors, entre le moment où vous les avez reçus sur la commune et où vous les avez inaugurés, il s'est passé combien de temps ?
Alors, sur la commune, je crois qu'on a mis à peu près 2 mois.
Deux mois okay. de travaux.
Ce qui n'est pas très long par rapport
à... En fait, la création des wagons, ça a duré 6 mois, parce qu'ils ont d'abord été créés à
Tours.
Ouais. On a fini le chantier quand on était entre le Vinci et la gare. Mmh. Au départ, on travaillait dans les locaux de la SNCF. Et puis après, on est arrivé, ça faisait partie aussi de notre cahier des charges. L'idée, c'était de travailler au cœur même de la ville pour que les gens... Et du reste, c'était assez drôle parce que les gens qui croisaient le chantier croyaient qu'on venait de Nantes, qu'on était Royal de Luxe. Mmh. Quand on leur disait qu'on était de Dolulsec, c'était un peu déçu. Mais bon, voilà, c'était assez drôle. Et puis après, quand on est arrivé là, ouais, parce qu'on a fait pas mal de changements, à Chambray, les issues étaient en bois, les escaliers, tout ça, c'était en bois. Et donc là, on a fait en métal avec une rampe handicapée, etc.
Mais le truc, c'est que là ils sont donc les uns à côté des autres. Oui. Quand vous dites que vous avez travaillé au sein de la SNCF, c'est-à-dire que vous avez fait les découpes et autres.
Ouais.
Donc du coup, quand vous les avez déplacés de la SNCF à ici, ils étaient déjà soudés?
Non, du tout. Les trois wagons sont indépendants, en fait.
Ah, d'accord.
Et il suffit de les sangler, la grue arrive, on les pose sur des porte-chars. Là, comme ça, ça paraît simple, mais l'ensemble fait 33 tonnes.
Seulement.
Voilà. il faut une grue conséquente.
Oui, hein, oui.
Et il faut aussi des porte-chars, parce qu'en fait, avec le poids, le risque, c'est d'écraser le maillage des porte-chars. Donc là, en plus, il faut remettre les tronçons de voie. Il y a des tronçons de voie, c'est pas simplement pour faire joli, c'est aussi des répartiteurs de charge.
D'accord.
Parce que compte tenu du poids, on pourrait écraser les terrains sur lesquels on s'installe, et les camions également. Donc là, en fait, en plaçant ces portions de voie, ça permet de répartir les charges.
Eh ben, ça a dû être les déménageurs de l'extrême alors pour amener tout ça ici. Quoi.
Moi, je suis pas du tout technique. Je viens pas du tout d'une filière technique. Mais tout ça, donc j'avais cette utopie dans la tête d'un théâtre du pauvre, etc. C'était formidable tant que quand c'est dans l'idée et tout, on s'emballe, on en parle, ça anime les débats le soir, voilà. Et quand on passe à la réalisation, c'est autre chose. Voilà. Parce que là, on se cogne à des choses qui sont précises, écrites et contre lesquelles on ne peut rien faire.
Eh ben oui.
Très bien, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale avec un groupe que vous avez diffusé il n'y a pas si longtemps que ça, le groupe Madeira M. Je vous propose qu'on se retrouve après cette petite pause musicale.
Te souviens-tu? Te souviens-tu de la couleur, de la douleur? Maintenant que je te le demande, est-ce que tu te souviens? Salamandra sul muro.
la tua casa bianca e tu piangi dalla paura, io rido così tanto. Sotto un panettone, forse sbaglio, sola, senza ombrellone, ma io vado, che pazzia! L'amore, così grande, si affoga come il giorno quando dà alla notte il suo cuore. Vado via, vado via! Più nulla sotto l'ombrellone del lido oleandro, muoiono i panettoni, tengo solo il mio cuore in mano.
De retour sur la rage, sur le 97.4 FM, en direct de l'Accueil Jeune de Saint-Brun avec la compagnie de l'Amarante. Nous venons de faire une petite pause musicale avec un petit groupe que vous avez fait jouer, je crois, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Madeira M Trio. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et arriver sur, tout simplement, vous êtes une salle de concert, représentation théâtrale. Donc, implicitement, il y a forcément une programmation. L'idée, c'était de savoir comment était conçue cette programmation aussi.
Bah, la programmation des wagons, on l'a fait, je dirais, tous les trois. La compagnie, elle est composée de Thierry Chongchong, directeur artistique, Anne-Marie Renaud, qui est la présidente de la compagnie, moi-même. On travaille, on écoute aussi beaucoup les conseils de nos spectateurs pour programmer et faire notre choix. C'est un choix plutôt éclectique. Musique, théâtre, danse, un petit peu aussi. On l'a fait ensemble, je dirais.
Puis les wagons, c'est donc un lieu qui porte une parole d'aujourd'hui. C'est pas parce qu'on n'aime pas le classique, c'est pas parce que je n'aime pas le classique, mais c'est toujours pour revenir à cette idée que Robert Pinget défendait d'une tribune pour des gens d'aujourd'hui, pour des gens qui portent une parole d'aujourd'hui. Donc les wagons... ils ont cette vertu-là, de faire la promotion d'artistes qui ont quelque chose à dire. Le sens, pour moi, est extrêmement important. Voilà, parce que, en fait, depuis un certain nombre d'années, on essaye de détruire l'action culturelle, de détruire la culture. C'est-à-dire que la culture de « on va pas se prendre la tête » a fini par gagner du terrain. Et donc, on arrive à voir des artistes qui sont pas du tout engagés, qui font le métier comme moi, j'irais au marché. Alors voilà, ça, ces artistes-là, ils ont pas vraiment de place au wagon. Les gens qui viennent chez nous sont des militants qui croient à leur travail et qui ont une véritable idée de la parole qu'ils ont envie de défendre.
J'ai déjà entendu un peu ce discours-là avec Plastic Café qui était passé à l'accueil de Truy au moment de Cosmopolite, effectivement. Ouais. Il tenait à peu près la même version que vous.
Hein. Ouais, bah, en fait, moi j'ai 50 ans, donc à partir de 81, la culture a commencé à se démobiliser. Parce que, en fait, avec l'arrivée de Mitran, eh bien, avant, il y avait des artistes qui étaient engagés puisqu'ils combattaient une idée de droite. Hein, donc, il y avait un vrai propos, il y avait eu 68, etc. Et là, d'un seul coup, tout le monde s'est reposé parce qu'on s'est dit, ben voilà, c'est gagné, on n'a plus à se battre, etc. Et peu à peu, eh bien, les gens ne se sont plus cultivés, en tout cas, plus de la même manière. Mmh. Et il y a eu la dictature du rire hein, qui s'est imposée avec les stand-up, etc., avec des artistes extrêmement commerciaux à la botte des télévisions et des médias. Avec aussi une démobilisation du peuple, parce que jadis, il y avait la classe ouvrière hein, qui était extrêmement importante. Cette classe ouvrière, elle était souvent adhérente au Parti communiste. Le Parti communiste éduquait les gens. Il y avait, alors après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec cette éducation, mais en tout cas, il y avait une culture qui était fabriquée. Et là, d'un seul coup, avec toutes les crises, etc., successives, les travailleurs ont disparu. La classe ouvrière a disparu. Avec l'avènement de Mitran en 81, le Parti communiste a également disparu. Et donc là, c'était la porte ouverte donc, à une culture commerciale et à la commercialisation des esprits. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de renaître, justement, parce qu'on a des spectacles, parfois au wagon, qui sont exigeants. Voilà. Eh bien, par exemple, on a fait venir Mal Matériaux. On pensait qu'on aurait à peu près 25 personnes. Il y a eu 70. Je trouve ça formidable. C'est-à-dire que là, les gens, maintenant, viennent chercher du fond. Ils viennent chercher du débat. Parce que je crois que certains en ont un peu assez, justement, de...
D'avoir tout le temps la même soupe.
Comment ?
D'avoir la même soupe.
D'avoir la même soupe. Ouais. Et puis, d'avoir cette idée de fête. Tout est pour la fête. Moi, je suis pas contre la fête. Hein, au contraire, je trouve ça vraiment très bien. Mais ce qui est vraiment aussi important, c'est que les gens soient éduqués. Parce qu'un peuple qui n'est pas éduqué, c'est un peuple qui est prisonnier. Mmh. Hein, donc, c'est vraiment... Alors, Plastic Café, évidemment, ils peuvent pas dire le contraire. Hein. On est la même génération, on est du même combat. Bon, voilà. Mais on est pas mal, hein, comme ça, hein, dans ce combat-là.
Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de votre activité ? C'est-à-dire, vous mettez en place aussi des ateliers, vous créez des spectacles, des pièces
Oui, alors les ateliers, ça, c'est aussi un thème récurrent chez nous. C'est aussi une volonté militante. J'ai connu le théâtre, moi, justement, grâce à l'avenue dans une école d'un chapiteau. C'est Malraux hein, qui a créé les maisons de la culture et de la jeunesse. Et à partir de là, il y a eu une énergie incroyable. C'était une énergie incroyable parce qu'il y a eu des gens qui sont venus s'installer avec de nouvelles idées. Et justement, cette troupe, ça s'appelait la troupe de l'éclipse. Et donc, chaque année, ils sillonnaient les campagnes hivernaises pour montrer leur travail. Et voilà, moi j'ai découvert le théâtre grâce à eux, parce qu'ils sont venus dans mon collège. À l'époque, moi je savais même pas que ça existait le théâtre, ou que par l'étude obligatoire des Molières et autres auteurs classiques nous obligeaient à apprendre nos professeurs. Et puis, c'était une vraie découverte pour moi. Donc l'idée d'aller rencontrer justement les élèves, de leur dire, écoutez... vous pouvez être pompier, vous pouvez être médecin, vous pouvez être ouvrier, vous pouvez aussi être comédien, vous pouvez être aussi auteur. Et c'est aussi une ouverture d'esprit incroyable parce qu'il y a plein de gens qui pensent, par exemple, que l'art, en général, ça n'est pas pour eux. Que le théâtre, ça n'est pas pour eux parce que c'est trop intellectuel, parce que c'est trop ceci, trop cela. Et bien là, en allant dans les écoles, justement, c'est une façon de démocratiser tout cela et de montrer que finalement, c'est accessible à tous.
Voilà, donc oui, ça... puis il y a peut-être aussi la façon pédagogique d'amener les choses, peut-être.
Oui, en fait, c'est pas tellement pédagogique justement, parce que nous, on vient, en tout cas moi, je viens avec mon métier. Je cherche pas, c'est pas un travail qui est lié à l'économie. C'est-à-dire que je cherche pas un rendement, je cherche pas à ce que l'élève soit bon. Je cherche simplement à lui faire apprécier ou à ne pas apprécier ce qu'il est en train de faire, à avoir un esprit là-dessus, un avis sur sa pratique, quoi.
Tout à voilà. Fait. Égayer son esprit critique, en fait.
Voilà, qu'il ait son esprit critique, qu'il ait ce choix de culture ou de non-culture. Après, c'est à lui de choisir, quoi.
Après, pour revenir sur ce que vous disiez, c'est vrai que dans toutes les familles, disons que c'est pas forcément ouvert non plus. Dans le sens où quand vous avez votre fils ou votre fille qui va dire, bah, moi, je vais être artiste, On sent le côté un petit peu, j'ai pas le bon mot peut-être, mais un peu branlant, on va dire, de la profession, avec peut-être un manque de sécurité derrière, et ça peut faire peur. Si on a des jeunes qui nous écoutent ou des parents, on pourrait comprendre aussi ces inquiétudes-là, quoi.
Enfin, aujourd'hui, la sécurité, c'est plutôt la sécurité qui est branlante aujourd'hui. Je vais répondre par un exemple. Il y a une élue, l'autre fois, j'ai eu une discussion avec une élue qui me disait « Mais Thierry, t'es marginal. » Et je lui disais « Mais pourquoi est-ce que tu dis que je suis marginal ?» Et elle me dit « Parce que tu lis des trucs bizarres. » Et je lui ai dit « Ah bon ? Je lis des trucs bizarres. » Je lui dis « Penses-tu que Dostoïevski, Tolstoï, Stendhal, Céline, Fonte sont des gens bizarres ? Ils appartiennent à la littérature, ils appartiennent au patrimoine mondial de la littérature. » Non, je crois que ce sont les gens qui font que ce métier-là ou que la culture soit quelque chose de bizarre parce que c'est quelque chose qui leur fait peur.
Est-ce que c'est pas quelque chose qui vient les déranger ?
Oui, ça les dérange, bien sûr. Moi, j'ai lu Musso, par exemple, cet auteur qui tire à des milliers. J'ai rien contre Musso. Je trouve que, c'est pas un grand auteur, mais en tout cas, ce qu'il écrit, c'est bien ficelé. Voilà. Et pourtant, c'est de la grande distribution, c'est de la littérature populaire. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une espèce d'esprit du « on va pas se prendre la tête » qui est bien installé, et voilà, on a peur justement que de se prendre la tête finalement, alors qu'on ne connaît pas, c'est la peur de la méconnaissance, parce que si vous lisez par exemple, Louis-Ferdinand Céline, c'est magnifique, et c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde.
Très bien, et concernant vos créations alors ?
Alors, mes créations, donc là, je travaille sur une trilogie qui s'appelle Le Chant des Hommes. Le premier volet, c'était La Rose des Sables. Deuxième volet, Cordes Raides. Et là, le troisième volet, je suis en train d'écrire, ça s'appelle 42. Donc, ça met en scène des personnages. Ce sont des épisodes, en fait, puisqu'on est quand même lié à cette culture télévisuelle. Ça met en scène des personnages qui appartiennent à un quotidien. Voilà, je me nourris beaucoup du quotidien. Et à un moment donné... Donc, ce quotidien dérape, et c'est ce dérapage qui va permettre de rentrer dans la fiction. Voilà. Alors, souvent, on me dit, oui, mais ces œuvres-là sont extrêmement noires et tout. Il y a le peintre Soulages qui disait que le noir, c'est la plus belle des couleurs parce qu'il y a les plus beaux reflets. Voilà. Il y a aussi Baudelaire qui disait dans l'ordure l'or. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher ce qui n'est pas beau pour le rendre beau et de faire en sorte que ces personnages deviennent de plus en plus humains. Voilà. Et l'humanité, elle n'est pas forcément là où on croit. Comme les salauds ne sont pas toujours dans le même camp. Voilà, donc l'idée c'est justement de faire en sorte que ces personnages ils appartiennent à un moment donné à une histoire collective, en tout cas ils m'appartiennent déjà parce que quand j'écris ce sont des entités qui m'accompagnent au jour le jour et ils sont pour moi des êtres existants. Voilà, par exemple Emma, Amira dans La Rose des Sables sont des personnages qui font partie de ma vie, ils m'accompagnent. L'acte d'écriture c'est d'abord un acte solitaire et puis donc ça vous oblige à rentrer dans un monde où la virtualité va vous faire rencontrer justement des personnages que vous pourriez peut-être rencontrer dans la rue, que vous n'avez pas osé aborder dans la rue et d'un seul coup ils deviennent votre intime.
Est-ce que vous vous obligez à avoir différents niveaux d'écriture dans le sens où vous parliez d'un théâtre peut-être plus engagé, peut-être plus moins du coup alors, je dirais pas moins digeste, mais moins facile à comprendre peut-être, en tout cas à apprécier que ce qu'on pourrait avoir dans la grande distribution. Est-ce que du coup vous faites en sorte de pouvoir mettre des différents paliers dans vos spectacles ?
Moi, mon écriture est extrêmement populaire. Je suis fils d'ouvrier, mais mes personnages parlent comme je parle ou comme parlait mon père. En fait, je dirais même que les mots, ce sont ceux de mon père. Moi, je suis juste le stylo. Voilà. Donc, quand je parlais d'épisodes, mes synopsis sont extrêmement lisibles. C'est-à-dire que il n'y a pas une transcendance intellectuelle qui va repousser le public.
D'accord.
Il y a une violence dans ce que j'écris, mais cette violence, de toute façon, elle n'est pas pire que ce qu'on peut voir dans certaines séries télévisées. Elle est même moins pire de ce qu'on peut lire, par exemple, chez un Dostoïevski. Par exemple, si vous lisez Crime et Châtiment, le héros tue à coups de hache deux vieilles femmes parce qu'il estime qu'elles ne méritent pas d'être en vie et donc ça va lui permettre de leur soutirer de l'argent. voilà, non, en fait, quand les gens ils viennent voir ce type de spectacle, ce dont j'ai envie, c'est que d'un seul coup, les personnages vont prendre corps, ils vont devenir matière, et ces personnages-là vont les accompagner dans la vie. Voilà.
Ça fait deux fois que vous citez Dostoïevski. Je suis pas sûr que tous nos auditeurs connaissent. En quelques mots, histoire que ils aient peut-être l'envie aussi d'aller chercher un peu plus sur Internet, qui est-ce que c'est.
Ben voilà. En fait, l'idée aussi, c'est de donner l'envie. L'envie et la curiosité. On nous a toujours appris que la curiosité, c'est un vilain défaut. Moi, je crois pas. Je crois que la curiosité, c'est un bon défaut.
Oui, tout à fait. Oui.
Les gens sont pas. Voilà, faut absolument qu'ils soient curieux, les gens.
Mm-hmm. Ben, sinon, on s'ennuie dans sa vie aussi.
Ouais, hein. Ouais, c'est clair.
Dostoïevski.
Pardon, je te coupais.
Oui, je dis juste auteur, du coup. Hein. Auteur russe, oui. Tout à fait. Qui a beaucoup, beaucoup fait parler de lui.
Oui.
Par rapport à en fait, une littérature qui était quand même. Choquante à l'époque et
violente.
Et violente.
Ouais. Mais en fait, l'artiste, c'est aussi, je dirais, la représentation de son temps. On vit quand même pas dans une société de bisounours. Moi, j'ai pas la télévision, je suis pas du tout l'actualité parce que ça m'intéresse pas. C'est, ouais. Ça ne m'intéresse pas parce que je pense qu'elle est complètement erronée et qu'elle est servie par des gens qui sont à la botte du pouvoir. Oui. Mais par exemple, quand on voit tout ce qui se passe. Justement, du côté de l'Orient, etc. Tout ça est extrêmement violent. Et je ne parle pas simplement des décapitations, parce que ça, finalement, bon, c'est un effet de la guerre, mais de toutes ces populations déportées, de tous ces enfants brûlés, etc.
C'est une souffrance, oui.
Ouais, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Il y a des choses qui sont encore bien plus violentes que ça. Par exemple, j'écoutais sur France Inter les parlementaires européens qui ont décidé de toutes ces lois. Contraignant les gens à vivre plus chichement en Grèce, en Espagne, etc.
Ça
a créé des suicides, hein, etc. Ces politiques d'austérité et tout. Il y a des gens qui sont retrouvés sur la paille et tout ça. Ces parlementaires ont maintenant fait le travail, donc ils peuvent partir en retraite et l'Europe leur donne à chacun 700 000 euros, plus leur indemnité de parlementaire. Moi, ça, je trouve ça violent. Je trouve ça extrêmement violent. Hein, parce que. Voilà, on est en train de nous dire que voilà, il faut se serrer la ceinture, que il faut devenir de plus en plus pauvre et accepter que les riches deviennent de plus en plus riches. Mmh. Mais quand on voit ce qui s'est passé en Espagne avec tous ces jeunes qui n'ont pas de boulot, cette désespérance en Grèce, etc. Il y a des femmes en Grèce pour accoucher, un accouchement coûte 600 euros si elles n'ont pas les moyens de payer la clinique ou je ne sais trop quoi, le lieu où elles accouchent, on retient le bébé. Donc voilà, il y a quand même des choses qui se passent en Europe à côté de chez nous qui sont aussi extrêmement violentes, c'est ça. Alors, quand on dit que mes pièces sont violentes, je dis non. À côté de ça, c'est un écrit tout à fait romantique.
Et si on venait à vos créations, donc si j'ai bien compris, c'est une trilogie, voilà. Il y a un épisode, c'est le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, qui s'appelle « Corde raide ».
Ouais.
Vous pouvez nous en parler un petit peu plus, puisque alors, je crois qu'on va s'en écouter un petit extrait tout à l'heure.
Alors, Corde raide, donc, c'est une femme qui a à peu près mon âge, un peu plus jeune, qui a fait des études. Le propre de notre génération, c'est qu'on a fait des études et que l'ascenseur social n'a pas été là. Hein, pas, en tout cas, pas à l'égal de nos parents.
Oh, il est bloqué depuis un moment.
Oui, il est bloqué. Oui, il risque d'être bloqué, encore que peut-être que... et bon, voilà, cette femme fait des études, l'ascenseur social n'a pas été là. Disons que la mythologie de sa vie n'a pas été là. Et donc, à partir de ce moment-là, un jour, elle décide de prendre la route à pied, de marcher. J'aime beaucoup la marche, d'ailleurs. Et elle va se retrouver au sommet d'une tour. Et puis, elle va donc traverser entre deux tours sur un fil pour regarder le monde d'en haut. Voilà, c'est ça l'idée. Et alors, en fait, c'est un écrit qui se nourrit de l'acte artistique qu'avait mené Philippe Petit entre les Twin Towers. Il a traversé entre les Twin Towers et ça a été le premier attentat culturel. Je trouve ça très beau. J'aime bien ce côté terroriste de la culture. Et donc, cette idée de changer le rapport entre le spectateur et l'acteur me plaît beaucoup. J'aime assez peu les théâtres conventionnels. J'aime bien que mes spectacles se passent ailleurs parce que, justement, quand on parlait de la surprise, de l'envie de découvrir, eh ben, là, on joue en haut des tours. En fait, on emmène les gens en altitude J'avais vécu ça à Bangkok. Je m'étais retrouvé au sommet d'un immeuble à me baigner. Et donc, il y avait un avion qui passait au-dessus de moi. J'étais seul dans cette piscine. J'avais trouvé ça formidable. Et je me suis dit, ce qui est formidable pour moi, ça doit l'être pour les autres. Et donc, j'avais déjà, depuis un moment, cette idée de faire un travail sur l'altitude, d'emmener des gens en haut pour qu'ils puissent assister à un texte entre ciel et terre. Voilà. Et on l'a fait à Jouer les Tours. Et c'était une expérience assez formidable, hein.
Alors, on s'en écoute un extrait et on se retrouve tout à l'heure.
Apollo ! Le cœur des creveurs ! Chérie, dis-moi à pas de chaude. Passe-moi la carabine que je bute ce coyote de banquier. Comme quand on allait à la fête foraine, le dos tourné au manège, qu'on dégommait des pipes en céramique pour une bouteille de critères qu'on buvait cul sec. Avant de faire l'amour et de s'endormir en rêvant, et de s'endormir en rêvant, et de s'endormir en rêvant. Chef indien et frère de sang, se partageant le cœur encore battant des actionnaires. La révolte a rompu mes amarres, mon fil à la patte.
De retour sur La Rage, la radio animation jeunesse sur le 97.4, en compagnie de Benjamin Jardet, l'animateur jeunesse de Truye, qui est à la technique, moi-même qui essaie d'animer cette émission, en compagnie de Lauriane Caillot, l'agent de développement culturel, Thierry Chang Chang, écrivain, metteur en scène, comédien et directeur artistique de la compagnie de la Marante, la compagnie basée et implantée sur Saint-Bran. Thierry, tu étais en train de nous expliquer ton spectacle et juste avant, contextualiser un peu. L'environnement, la difficulté que c'était aussi d'avoir une action militante et culturelle. Ce qu'on aimerait savoir un peu, c'est justement peut-être davantage les difficultés que vous rencontrez, qu'elles soient financières, qu'elles soient en termes de bénévoles. On peut parler aussi de la difficulté des réformes des intermittents. Peut-être que vous travaillez avec d'autres salles de spectacle pour faire tourner vos spectacles. Enfin, en gros, face à tout ça, comment vous faites pour vous organiser et lutter contre les difficultés que vous rencontrez?
En tout cas, au niveau de la compagnie de la Marante, on est subventionné. On a été plus subventionné avant que maintenant, mais ça, c'est un effet général. Par exemple, il y a des institutions qui se désolidarisent parce que les enveloppes sont moins importantes. Je pense notamment à la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC.
La DRAC.
Hein, donc, alors, pourquoi elle se désolidarise de structures comme nous? C'est parce qu'on est considéré comme des structures privées et qu'il y a aussi de grands organismes publics comme le CDRT, comme des grosses structures qui sont des entités étatiques. Et donc voilà, ceux-là sont financés en priorité. Et comme la poire elle est moins importante,
ils gardent le monopole sur l'action culturelle.
Voilà, ils gardent un monopole sur l'action culturelle. Avec l'arrivée de Jacques Vincé, c'est pas mal parce que c'est un metteur en scène intéressant, intelligent, avec un propos artistique qui va un peu changer. Hein, c'est aussi quelqu'un qui est assez militant, donc néanmoins, je pense que tout ce qui est scène nationale, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister, d'accord ? Parce que c'est un portail d'État et on n'a pas besoin d'avoir une culture d'État. Hein, je pense que la France, c'est tout de même un pays. C'est quand même le pays des Lumières, des philosophes, et donc il y a quand même un vivier d'artistes qui portent des paroles différentes, hein, extrêmement différentes, et je crois qu'il faudrait plutôt favoriser justement tous ces modes d'expression plutôt que de favoriser un mode d'expression en particulier, en tout cas une expression d'État. Ça, c'est mon avis.
Plus de ministère de la Culture.
Je ne vois pas bien sa légitimité. D'autant que lorsqu'on entend notre ministre de la Culture dire qu'elle n'a pas lu le dernier prix Nobel et qu'elle n'a pas le temps de lire, c'est une boutade, hein, évidemment, je reprends ce que disent les médias, mais ça renforce un petit peu tout ce qui est dit un peu partout sur le monde de la culture, c'est-à-dire que ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas. Un ministre qui lit pas, il n'a pas à avoir une fonction comme celle-là, comme un élu... un élu départemental ou local ou je ne sais pas, qui est pas en lien vraiment avec la culture, qui ne sait pas comment ça fonctionne. Bon, voilà, il faut au moins qu'il s'y intéresse et qu'il sache un petit peu de quoi on parle. Aujourd'hui, le grand mot, c'est que la culture soit rentable. Elle l'est, dans l'échange, déjà, des acteurs et des spectateurs, dans le plaisir ou dans le déplaisir qu'on a d'aller lire ou de regarder un spectacle ou d'entendre une chanson. Et puis l'activité théâtrale, c'est 3% du PIB. Pas théâtrale, l'activité culturelle, c'est 3% du PIB. D'ailleurs, il y a certaines villes qui ne s'y trompent pas. Quand, par exemple, Avignon était menacée par l'arrivée du Front National, et quand les artistes ont dit, écoutez, si le Front National est élu à Avignon, nous, on s'en va, le Front National n'est pas passé, parce que Avignon sans les artistes, c'est Avignon, c'est plus Avignon. Avignon, ça meurt. Avignon ne vit que sur le dos du Festival d'Avignon. Alors évidemment, il y a des gens populistes, avec un esprit extrêmement étriqué, qui disent « ça coûte cher ». Mais est-ce qu'ils ont évalué ce que coûte l'ignorance? Parce que ça coûte plus cher, l'ignorance. Un peuple qui est éduqué, ça coûte bien moins cher qu'un peuple qui est non éduqué. Par exemple, justement, vous me parliez des ateliers. Quand je vais dans les écoles, il y a de plus en plus de problèmes sociaux. Ces problèmes sociaux, ça entraîne justement des problèmes culturels. Et quelquefois, dans des cas un peu extrêmes, mais de moins en moins extrêmes, du coup, il y a des enfants qui sont placés dans des institutions spécialisées. Dans certaines institutions, il faut un éducateur par enfant. Donc voilà, si cet enfant-là, il était dans un milieu autre que celui où il a été élevé, où il est, il aurait eu une possibilité, une autre possibilité de vie, en tout cas, et puis peut-être qu'il ne serait pas dans cette institution. Hein, donc moi je crois vraiment que ce procès qu'on fait à la culture en disant que la culture coûte cher, moi je dis à ceux qui disent ça, calculez donc ce que coûte l'ignorance, et ça coûte bien plus cher.
Voilà. Lauriane, toi qui es agent développement culturel, as-tu trouvé des solutions pour pallier aux difficultés que vous rencontrez? Tu m'avais parlé d'une mutualisation.
Oui, on n'est pas les seuls à faire ce travail-là. Je pense à la Touline, à Azé-sur-Cher, qui est une salle Troglo, Vaugarny à Pont-de-Rouen, qui est une grange, je pense au théâtre du Rossignolet, à Ferrière-Larçon, et puis une petite salle qui vient d'ouvrir à Loches, j'ai perdu le nom le du nom. Théâtre de Loche.
Le Rossignolet.
Ah non, je me suis trompée, oui. Ouais. C'est le petit théâtre des balcons à Ferrières-Larsson et le théâtre du Rossignolet à Loche. Donc on est cinq petites salles en milieu semi-rural ou rural qui menons une programmation, qui avons une tribune, un lieu de diffusion pour des artistes locaux. On défend, en tout cas, on défend tous les cinq la même chose. Et on a créé, on s'est réunis, on a créé un événement qui s'appelle 4 scènes en campagne, bientôt 5. Justement, on se réunit pour, c'est une manière de mettre en lumière ces lieux, de aussi créer un mouvement entre les publics. Et donc on a accueilli là récemment Yannick Jolin et qui a tourné en fait sur les quatre lieux. Donc on s'aide sur un plan matériel aussi financier pour un partage au niveau d'un artiste et puis de la technique, voilà.
Puis on travaille beaucoup aussi. Tous les intervenants de la compagnie travaillent. Voilà, on fait des journées extrêmement longues. Alors soit en atelier. Nos spectacles tournent aussi. Donc, en fait, on est assez autonome par le biais de notre travail.
D'accord. Où est-ce que j'allais enchaîner sur la position culturelle de la CCVI ? Quel rôle vous jouiez dedans aussi ? Puisque vous êtes sur un territoire communautaire. Est-ce que vous souhaitez adhérer à des valeurs culturelles, concertées ou pas ? Est-ce que, je sais pas, enfin...
Oui, nous on travaille sur un territoire, on travaille évidemment pour le territoire de la CCVI.
Mais pas que.
Par exemple, il est probable qu'on aille jouer, on joue à Paris, on a joué dans toute la France quand on a fait la Rose des Sables, on va sans doute aller jouer à Nantes. Donc voilà. Mais justement, je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'on aille ailleurs, qu'on sorte de ce territoire, parce qu'en étant de ce territoire, on porte aussi donc l'image de ce territoire.
Exactement.
Donc voilà. Après, aujourd'hui, il y a des nouveaux élus à la CCVI qu'on ne connaît pas, donc on ne sait pas du tout quelle est l'orientation politique qui sera menée. Voilà, on est dans cette attente. Quoi.
Si éventuellement ils nous écoutent, vous auriez une demande à leur faire ?
Alors, moi, la demande, elle est la même pour tout le monde, hein. Je pense que c'est de prendre conscience que la culture, c'est quelque chose d'important, hein. Ça fait partie de la vie.
Tout à fait.
Voilà, c'est tout, quoi. Et puis, il n'y a pas une culture, hein. Il y a la culture, il n'y a pas que la culture du rire, il n'y a pas que la culture de l'événement, il y a aussi une autre culture. Je pense qu'il faut essayer de contenter un ensemble de gens. Voilà, il faut faire une culture qui soit citoyenne. Il y a une espèce de morosité dans les médias, etc. Mais nous, par exemple, quand on a fait repeindre les wagons, il y a bon nombre de spectateurs qui ont souscrit justement au chantier, mais qui sont venus aussi physiquement nous aider. Ça, c'est quelque chose de formidable.
Je peux confirmer, hein, moi, travaillant à l'accueil jeune, venant tous les jours à Saint-Bran, effectivement, il y avait un monde pas possible autour des wagons, en train de passer les coups de rouleau, décaper, etc. Enfin, il y a une énergie de dingue, j'ai trouvé ça génial.
Bah oui, parce qu'en fait, les wagons, c'est pas ma propriété. C'est une propriété collective, hein. C'est la propriété des spectateurs et des artistes. Et donc les spectateurs se trouvent bien dans ces wagons. Ils ont l'impression d'être chez eux. Ils ont bien raison. Et voilà, moi ma maison, je l'entretiens aussi. Donc forcément, ils participent à cet entretien. Et puis c'est pas qu'un entretien matériel. C'est aussi un entretien, je dirais. Moral et intellectuel, parce que c'est dans ce moment de travail et de partage, c'est aussi un échange d'idées. C'est des gens qui viennent d'horizons différents et
on est dans l'humain.
C'est important, hein, de remettre l'humain au cœur du projet.
Très bien. Est-ce que moi j'avais sur mon déroulé d'émission une petite lecture de texte. Est-ce que on peut découvrir ce texte? Ouais. De qui c'est?
C'est de Thierry Tchanchong, pour être modeste.
Et je précise que La Rose des Sables et Cordes raides, on a une petite aventure éditoriale chez L'Harmattan, et ils sont publiés donc chez L'Harmattan.
Voilà. Voilà, donc le texte, c'est le premier monologue. C'est le premier monologue de La Rose des Sables. Et donc, c'est le personnage de Simon. Voilà.
On t'écoute.
Les bonbonnes de gaz, moi, je les aurais fait péter. Un grand boom, et puis plus rien. Tout ce qu'on a fait... C'est comme si on avait pissé dans un violon. L'usine était pleine de charognes, alors ils lui ont mis un grand coup de latte dans le bide. Ça lui a mis les tripes à l'air, et nous, on est tombés sur le bitume, comme des gros cacas. expédier les affaires courantes, la chiasse, la lie prolétarienne. Il n'y a plus de pièces à y remettre. L'affaire est classée. La semaine dernière, aux informations sur la 2, il y avait un reportage sur nous. On nous voyait en train de brûler des pneus. Et puis le journaliste, il a tendu son micro à Bernard Dupré. Alors il s'est mis à brailler comme un veau que si on ne nous donnait pas 50 patates de prime de départ, on ferait sauter l'usine. Résultat des courses ? Rien. Nada. C'est pas celui qui fait le gâteau qui le bouffe. Résister. Pas gueuler. En silence. Pas de violence. Mots d'ordre. Syndicats. Grève. Tout était là. La force était là. Mais la peur. La vieille peur. La vieille peur des miséreux. Aucun espoir. C'est la pure vérité. Je sais pas si ailleurs les pauvres sont plus laids. Et les autres. Tous les autres. Finalement, tout ça, c'est que du cinéma.
Bravo.
Bravo.
Je ne sais pas si on entend les...
Merci. Merci pour cette lecture. J'aimerais savoir un peu maintenant quelle est votre actualité. Est-ce qu'il y a une création en cours, un prochain spectacle
Oui, voilà. Alors là, je viens de terminer une pièce qui ne fait pas partie de la trilogie, qui D'accord. s'appelle L'Inverti. Je suis très à la mode parce qu'en fait, c'est un spectacle qui parle d'un travesti. Donc il y a Ozon qui a fait son film Ma meilleure amie, je crois. Et puis voilà. Enfin bon, c'est comme ça, c'est une époque. Et donc on est en train de la monter. Alors c'est pas un spectacle noir, je dirais que c'est gris.
Ok.
Parce qu'il y a un peu d'humour dedans. Mais en fait c'est l'histoire d'un commis boucher qui va rencontrer une jeune femme un peu inaccessible parce que cette jeune femme elle vient d'abord d'ailleurs et puis qu'elle a justement toujours des livres sous le bras. Et lui, ça le. À la fois, ça l'inquiète, je crois. Ça l'interroge, mais ça l'inquiète. Et il finit par l'observer. Et puis, il finit également par acheter tous les livres qu'il voit passer sous son bras et aller lire. Et comme elle lui paraît de plus en plus inaccessible, eh bien, il va décider de devenir sa meilleure amie. Et donc, de se travestir et pour pouvoir l'approcher. Voilà. Donc, c'est une histoire d'amour. Hein. C'est une histoire d'amour à la vie, à la mort. Voilà. Donc, c'est pas noir, c'est pas blanc. Donc, c'est gris.
Ton rôle du coup c'est d'écrire
et de mettre en scène.
Ouais. Donc vous avez l'habitude de vous entraîner, on va dire comme ça, de jouer au wagon, mais peut-être pas que.
Non.
Selon.
On part en résidence aussi beaucoup.
Ouais.
Voilà. Par exemple, à Noël, là, on sera à La Touline. On a fait des résidences à Malraux, pas mal. On fait des résidences aussi à Vaugarny. Voilà. En fait, c'est pas mal de changer de lieu parce que. Ça permet d'avoir une autre vision des choses et puis de rencontrer d'autres gens, d'avoir un autre regard.
D'avoir un autre regard,
Moi, je suis assez friand de ça. C'est-à-dire que les gens, ils viennent voir le boulot quand on est en construction, il y a un échange, il y a des critiques. Et je suis quelqu'un qui écoute, quoi.
Ah. Peut-être que vous allez entendre ce bruit sur les ondes. C'est certainement un avion qui passe au-dessus de la cale jeune. Désolé.
Ça y est, les forces de police investissent
voilà. Trop d'actions militantes culturelles.
On va retirer les micros d'ici quelques secondes.
Bon, et plus sérieusement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter par la suite alors ?
De jouer, d'avoir du public. Voilà, de jouer, d'avoir du public. D'avoir
que le peuple se réveille.
Ouais, que peut-on nous souhaiter ? J'allais dire la révolution, j'ai pas osé. Mais puisque tu me tends la perche, ben voilà, tisons-le.
En tout cas, pour finir cette émission, on peut dire qu'on a entendu vos messages. Donc, en résumé, je crois que c'est sortez de chez vous, arrêtez d'être tout le temps devant la télé et de suivre la même soupe et allez voir ce qui se passe finalement pas très loin. Donc,
soyez curieux.
Ouais, surtout que quand on va voir un spectacle, on risque rien. La seule chose qu'on risque, c'est de ne pas aimer et éventuellement de perdre 12 euros parce qu'on n'a pas aimé le spectacle. Mais de toute façon, même en payant 12, 10 ou 5 euros et qu'on n'aime pas le spectacle, c'est aussi une rencontre. Parce que le soir, il y a des débats, on rencontre les gens, donc ça crée du lien. Hein. Voilà, c'est le seul risque qu'on a au spectacle. Hein.
Tout à fait. Et puis c'est suffisamment peut-être dérangeant et différent pour la plupart des gens. Et je pense que vous vous en souviendrez peut-être mieux qu'une soirée devant, je ne sais pas, les stars, célébrités ou quelque chose comme ça.
Je ne sais pas ce qui se passe.
Moi non plus.
Je regarde depuis 6 ans. Alors.
En tout cas, si jamais on avait besoin de vous retrouver, sachez que vos bureaux sont donc à la mairie de Saint-Branc. Oui. Et puis que vous avez aussi mis en place un site www.compagniedelamarante.wix.com. Voilà, l'émission va s'arrêter. Je vous remercie tous.
Merci à vous. Merci.